d'aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du lundi 27 mai 2019. Eric Manirakis à la présentation, voici d'abord le sommaire. Plus de 40 morts dans un conflit intercommunautaire dans le centre du Tchad et en Libye. Les combats avancent vers Tripoli. En RDC, les recherches continuent sur le lac Maïn Dombé après le naufrage d'une embarcation samedi dernier.
Il y a plus de 42 morts avec 200 personnes rescapées. On a pu retrouver sur le lieu du drame.
Le président Donald Trump en visite au Japon, il a adopté un ton conciliant face à la montée des tensions avec l'Iran. Élections européennes, les groupes d'extrême droite, eurosceptiques et europhobes sont encore loin du front commun malgré une nouvelle progression. Et dans 10 minutes, l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Tchad, le week-end dernier a été sanglant dans la province du Ouaddaï, située au centre du pays. Un conflit intercommunautaire a fait plus de 40 morts et des dégâts matériels importants. Sur le terrain, la tension reste encore vive en ce début de la semaine. André Kodmajingar, correspondant de VOA, nous fait le point d'Ndjamena.
C'est un conflit latent qui date de 2017, mal géré par les autorités locales, qui s'est dégénéré ce week-end dans le Ouaddaï géographique. Selon de bonnes sources, les Arabes nomades voulaient faire paître leur bétail autour d'une petite montagne située dans le village Amgane dans le Ouaddaï. Les autochtones ont refusé sous prétexte que ces herbes sont réservées non seulement pour leur pâturage, mais également pour la construction de leur hutte. Soudain, les autochtones sont alertés d'un incendie qui ravage leur pâturage situé sur la colline où leur bétail va brouter en attendant l'hivernage. Malheureusement, les Arabes mécontents, lourdement armés avec des fusées de guerre, les ont accueillis avec des coups de feu. Ils se sont repliés pour organiser une contre-offensive au cours de laquelle plusieurs personnes sont tuées de part et d'autre. Le combat a continué tout le week-end et les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain semblent être débordées. L'un des nombreux 6 villages incendiés, 46 morts, une cinquantaine de blessés et près de 100 personnes interpellées ainsi que d'importants matériels de guerre saisis. Le ministre en charge de la sécurité publique Mohamed Abali Sala débarque sur les lieux et instruit qu'aucune dia prix du sang ne sera versée avant le jugement des suspects interpellés. Les autorités rassurent que le calme est revenu, mais d'autres sources indépendantes informent que dans la journée du 26 mai, des hommes armés ont encore brûlé les jardins et les cultures maraîchères et les maisons au sud du Dar Ouaddaï et ramassent tout sur leur passage. André Kodmajingar Ndjamena pour VOA Afrique.
De violents affrontements approchent lentement du centre de la capitale libyenne Tripoli, alors que les forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar tentent de s'emparer du pouvoir. Nathalie Barge.
Sarraj al-Majbri, un aide de Khalifa Haftar, a déclaré que l'ANL avait pris des positions dans la région de Salah al-Din, à quelques kilomètres du centre-ville de Tripoli. Selon des résidents, de violents combats se déroulaient le long d'une route stratégique reliant la capitale à son aéroport international, qui n'est plus opérationnel depuis 2014. Au moins 562 personnes auraient été tuées, parmi lesquelles des combattants et des civils. Par ailleurs, Khalifa Haftar a qualifié l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, de médiateur partial, dans une interview publiée par le journal du dimanche en France. Le 21 mai, M. Salamé avait déclaré que les combats opposant les forces du maréchal Haftar à celles du gouvernement d'accord national pourraient conduire à la division permanente du pays. La partition de la Libye, c'est peut-être ce que nos adversaires veulent, c'est peut-être ce que Ghassan Salamé souhaite aussi, a déclaré M. Haftar, ajoutant que les Libyens resteront unis et que la Libye restera un seul peuple.
Nathalie Barge. La presse algérienne estime peu probable une tenue le 4 juillet de la présidentielle censée élire le successeur d'Abdelaziz Bouteflika. Seules deux personnalités sans envergure ont déposé leur candidature dans les délais. Il s'agit du docteur Abdelhakim Hamadi, vétérinaire et chef d'une entreprise de médicaments vétérinaires, et de l'ingénieur en mécanique aéronautique Hamid Touhari. Le conseil constitutionnel a 10 jours pour étudier les dossiers, dire si les candidatures répondent aux critères exigés, notamment de nationalité, de résidence, mais aussi de parrainage, 600 élus ou 60 000 électeurs dans plus de la moitié des régions du pays. Au Malawi, le président sortant Peter Mutharika a été réélu pour un nouveau mandat de 5 ans avec plus de 38% des voix devant le chef de l'opposition Lazarus Chakwera qui a obtenu plus de 35%. Le scrutin présidentiel se déroule en un seul tour au Malawi. La majorité relative suffit pour l'emporter. La commission électorale a proclamé ses résultats officiels peu de temps après une décision de la haute cour de la capitale qui avait imposé samedi la suspension de leur publication en raison d'accusations de fraude émanant de l'opposition. Les Malgaches ont voté aujourd'hui pour élire leurs députés dans un scrutin aux allures de revanche, 5 mois après le duel qui a vu la victoire à la présidentielle d'André Hajoel devant son éternel rival Marc Ravalomanan. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le Changement Démocratique, MDC, a reconduit hier à sa tête l'avocat Nelson Chamisa lors de son premier congrès. Monsieur Chamisa dirigeait de fait le parti depuis la mort de son fondateur Morgan Tsvangirai il y a un an, mais n'avait pas été formellement élu par les membres. 3 migrants africains, dont une adolescente de 15 ans, ont été découverts cachés sous les tableaux de bord et derrière les sièges de 3 voitures à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. C'était vendredi matin, lors d'une fouille des véhicules au point de passage entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain poursuit sa visite d'État au Japon. Donald Trump est le premier dirigeant étranger à rencontrer le nouvel empereur. Il a aussi annoncé la vente d'équipements militaires au Japon. Abdulrahman Dia pour les détails.
Le président Trump a indiqué que le Japon allait acheter 105 avions de combat F-35 supplémentaires. Les États-Unis soutiennent les efforts du Japon pour améliorer ses capacités de défense, a annoncé le président américain à l'issue d'un sommet avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Le gouvernement de Shinzo Abe, qui a annoncé en décembre un budget record pour la défense, a accru ses importations d'équipements militaires américains. Le but est de contrer la menace militaire de la Chine, mais aussi de réduire le déséquilibre commercial avec les États-Unis, régulièrement dénoncé par le président américain. Sa visite intervient au moment où les États-Unis menacent d'imposer des tarifs douaniers sur les importations de voitures japonaises. Mais sur la Corée du Nord, autre sujet important pour le Japon, Donald Trump a minimisé les inquiétudes suscitées par les 2 récents essais de missiles réalisés début mai par Pyongyang. Le premier ministre japonais Abe et les conseillers de Donald Trump disent que ces tirs violent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ici aux États-Unis, aujourd'hui, c'est Memorial Day, la journée du souvenir. Le pays honore ses soldats morts dans toutes les guerres. Le président Trump est en visite au Japon. C'est le vice-président Mike Pence qui s'est rendu au cimetière national d'Arlington, près de Washington, pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Des défilés et cérémonies commémoratives ont lieu à travers le pays ce lundi. Les discussions pour les postes clés des institutions de l'Union européenne s'annoncent acharnées après les européennes qui ont accouché d'un parlement plus fragmenté avec la poussée, certes limitée par rapport aux prévisions des partis eurosceptiques et la nette progression des écologistes et des libéraux. Les précisions de John Lydon.
Les résultats sur la composition du futur Parlement sont à peine tombés, mais les grandes manœuvres sont déjà lancées, alors qu'un dîner entre les 28 dirigeants de l'Union européenne est prévu demain soir pour échanger sur les prochaines nominations. Le président français Emmanuel Macron, qui a perdu son pari face à Marine Le Pen, doit recevoir à dîner le premier ministre socialiste espagnol, Pedro Sanchez, avant de déjeuner mardi à Bruxelles avec plusieurs dirigeants. Les 28 devront tirer les leçons du nouvel équilibre des forces au Parlement. Dopé par les scores des partis de Marine Le Pen et Matteo Salvini, mais aussi celui du parti pro-Brexit de Nigel Farage au Royaume-Uni, les eurosceptiques devraient remplir toutes tendances confondues jusqu'à un quart de l'hémicycle, soit 171 sièges selon les projections les plus récentes, contre 155 dans l'hémicycle sortant. Mais les européennes ont également été marquées par la percée des écologistes ainsi que celle d'un groupe libéral centriste. Ce rééquilibrage des forces au sein de l'hémicycle européen pourrait compliquer les discussions qui s'ouvrent sur les principaux postes à la tête des institutions.
Le pape François a dénoncé aujourd'hui les méchancetés et les laideurs de notre temps qui entraînent un rejet des migrants. Dans un message à l'occasion de la Journée mondiale des migrants et des réfugiés, l'attitude à l'égard des migrants constitue une sonnette d'alarme et qui nous avertit du déclin moral qui nous guette, a mis en garde le souverain pontife. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nanit Talani.
La société des brasseries et des boissons gazeuses du Niger, Braniger, filiale du français Castel, cessera toutes ses activités dès juin en raison des pertes cumulées depuis plusieurs années et compte tenu de la baisse des ventes depuis le début de l'année. Le conseil d'administration a convoqué une assemblée générale le 10 juin en vue de dissoudre Braniger, qui emploie 120 personnes et environ 200 sous-traitants. Pour tenter de contrer cette décision aux conséquences économiques et sociales énormes, le gouvernement nigérien a engagé des consultations permettant de sauver l'entreprise. Sherpa ainsi que 9 autres associations et syndicats saisissent la justice en France pour obliger la société Bolloré à appliquer un plan d'action visant à améliorer les conditions de vie des communautés riveraines et travailleurs de plantations d'huile de palme au Cameroun, notamment la Soka Palm. Les ONG espèrent aussi des décisions importantes lors des assemblées générales de la SOCFIN et du groupe Bolloré prévues demain et mercredi. Les deux sociétés détiennent des participations dans Soka Palm. Terminons avec l'Afrique du Sud, premier pollueur du continent africain qui instaure une taxe sur les émissions de carbone à l'endroit de toutes les entreprises du pays. Elle a été fixée à 7,4 euros par tonne de dioxyde de carbone. La taxe carbone entrera en vigueur le 1er juin.
Et sans transition, nous passons directement à la page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous.
Hervé Renard convoque 27 unions pour la préparation pour la CAN 2019.
Oui Eric, cette présélection du sélectionneur des Lions de l'Atlas comprend notamment le joueur du couloir Achraf Hakimi du Borussia Dortmund, privé de la fin de saison sur blessure. Les cadres habituels sont également présents à l'image du capitaine Mehdi Benassia, mais aussi du maître à jouer de l'Ajax Amsterdam Hakim Ziyech, sans oublier le buteur vedette du Zamalek Khalid Boutaeb, vainqueur ce week-end de la Coupe CAF face à Berkane. Les joueurs convoqués sont attendus le 2 juin à Rabat pour un stage qui les verra affronter en amical la Zambie et la Gambie les 12 et 16 juin prochains au Grand Stade de Marrakech.
À suivre, Yacouba et le Zamalek remportent la Coupe de la CAF aux dépens de Berkane.
Et oui, le club égyptien est sacré vainqueur après avoir battu les Marocains de Berkane au tir au but. 5 tirs réussis contre 3 à Borj El Arab. Battu 1-0 à l'aller, les Kairotes se sont imposés sur le même score grâce à un pénalty transformé par Mahmoud Allah. Ils garnissent un peu plus un palmarès déjà riche de 5 Ligues des champions de la CAF.
Et l'ex-présidente de la Fédération sierra-léonaise de football est acquittée.
Isha Johansen et l'ex-secrétaire général Chris Camara ont été acquittés par un tribunal de Freetown. Ils avaient été arrêtés en septembre 2016 et libérés sous caution à la suite d'une enquête de la commission anticorruption. Avant d'être mis en examen en septembre 2017, cette commission les accusait d'avoir détourné un don de 50 000 dollars de la CAF destiné à l'achat de matériel IRM. Cette affaire avait conduit à la suspension de la fédération par la FIFA en octobre dernier. L'instance mondiale du foot dénonçait le limogeage d'Isha Johansen et Chris Camara comme une ingérence des autorités politiques dans le fonctionnement de la fédération. Les matchs éliminatoires de la Sierra Leone pour la CAN 2019 avaient été annulés avant que la CAF ne disqualifie le pays en décembre 2018.
Et on va terminer avec du basketball, mais on ne parle pas de la NBA. Yacouba, Primeiro sort vainqueur de la Ligue africaine des champions.
Oui Eric, une fois n'est pas coutume, on parle de basket sur le continent. Pas de doublé donc pour les Marocains de l'AS Salé tenant du titre. Dans une ambiance survoltée, les Angolais parfaitement entrés dans leur match avec surtout un bon premier quart-temps. On finit par s'imposer 83 à 71. Le dernier succès d'un club angolais dans cette compétition remontait à 2015. C'était celui de Petro Luanda. Avec ce sac, le Primeiro do Agosto décroche donc la 9e couronne de son histoire, sa première depuis 2013.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo. Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakiza, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. En RDC, les recherches de survivants se poursuivent sur le lac Maïndombé après le naufrage d'une embarcation samedi dernier. 42 corps sans vie ont été repêchés et 210 rescapés retrouvés, mais le nombre exact de passagers est difficile à établir en raison de la présence de clandestins sur ce bateau. Eddy Sango a joint le maire d'Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombé, Simombo Wemba.
À ce moment où je vous parle, il y a plus de 42 morts avec 200 personnes rescapées qu'on a pu retrouver sur le lieu du drame.
Qu'est-ce qui a provoqué cet accident?
Ce sont des surprises là qu'il y a les vagues, ça c'est au premier niveau, et puis le cas de... Il y a eu la surcharge aussi, suite à l'état vestige de la baleine.
Vous dites qu'il y a encore des disparus. Est-ce que les recherches se poursuivent?
Oui, c'est depuis hier. Depuis hier, les recherches continuent. Les recherches continuent, donc pour laquelle on est en train de réfléchir quelques morts. Bon, il y a aussi beaucoup de disparus, donc jusqu'à présent, on continue avec les recherches.
Il y a souvent eu des accidents dans les lacs. Et de l'autre côté, à l'est, le président est allé récemment, après le naufrage d'une autre embarcation, et il a été imposé à toute embarcation d'avoir des gilets de sauvetage. Est-ce que toutes ces mesures de précaution sont suivies?
Non, mais je vous dis que ce n'est pas facile à imposer à l'autre niveau. Je pense qu'il n'y en a pas. D'abord, au départ, il n'y en a pas. C'est difficile à trouver. Mais bon, il y a des services qui doivent utiliser ça.
Vous parlez de vétusté de la baleinière ou des embarcations de ce genre, mais quel est l'âge limite de telles embarcations qui peuvent naviguer sur les lacs?
Après 3 ans, une baleinière nouvellement fabriquée a une durée au moins de 3, tout au plus 3-4 ans. Mais dépasser cet âge, c'est fini.
Mais comment se fait-il que ces genres de baleinières qui sont âgées, vétustes, continuent à naviguer sur les lacs? Comment arrive-t-il à passer à travers les mailles des services que vous dirigez?
Non, il n'y a personne qui autorise. Il n'y a personne qui autorise. Notre niveau n'a même pas interdit. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises. Mais je vous dis, mais à défaut de moyens, à défaut de bonnes baleinières, dans les cas, c'est qu'en cas de service, ils peuvent aussi voyager comme ça. Ils font leur voyage calmement. Ils arrivent s'il n'y a pas de vagues et s'il n'y a pas de surcharge. C'est sur des raisons, je vais dire, de même que s'il y a surcharge et le cas aussi de la baleinière, surprise par des vagues, ce sont des causes. Ce sont des causes qui provoquent beaucoup d'accidents.
Est-ce qu'on connaît exactement le nombre de personnes qui étaient dans l'embarcation?
D'après le manifeste présenté par le service de migration au port, il parle de, c'est bien écrit, 113 passagers qui étaient à bord. Mais d'après les rescapés, maintenant, on voit plus de 350, 400 passagers.
Comment ça se fait que les gens dépassent toujours le nombre?
C'est une bonne question à poser au service des gens au port.
Simon Mbo Wemba, maire de la ville d'Inongo, dans le Maïndombé. Au Togo, selon notre correspondante sur place, les hôpitaux publics n'ont pas bonne réputation. Une situation qui fait que la population ne fait pas confiance au personnel soignant dont l'accueil laisse à désirer. Pour redorer le blason des hôpitaux publics, le ministère de la Santé a opté pour leur contractualisation lancée en 2017. 2 ans après, l'heure est au bilan. Le reportage est signé Kaye Lawson de Lomé.
Le Togo s'est inscrit depuis 2 ans dans une approche contractuelle de ses services de santé. L'objectif est d'améliorer le système de santé en assainissant la gestion des finances des hôpitaux. Après la phase pilote qui a concerné une dizaine de centres hospitaliers, le bilan est reluisant, nous dit le ministre togolais de la Santé, le professeur Mustapha Mijiyawa.
Cette contractualisation a beaucoup assaini la gestion des finances des hôpitaux. Et ça a beaucoup impacté sur les taux de consultation, les taux de fréquence.
fréquentation, l'aspect maternité, l'aspect prise en charge chirurgicale. Maintenant, c'est d'équiper, de réhabiliter les différentes formations sanitaires, ce qui fait que les deux aspects réunis vont nous permettre de mettre en place un système de santé de base robuste, correct pour nos populations.
Reconnaissant que la contractualisation a contribué à une certaine amélioration des services dans les hôpitaux publics, ces Togolais appellent à plus d'humanisme dans les centres sanitaires.
On a senti qu'il y a une nette amélioration de la vie sanitaire. Donc dire qu'on doit améliorer quelque chose, c'est l'accueil et traiter tout le monde de la même manière. Ce n'est pas parce qu'on me connaît que je dois bénéficier des soins de santé de qualité. Tout le monde doit être respecté en tant qu'être humain.
Beaucoup d'améliorations, surtout dans le cadre du service qui est rendu. Je voudrais qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans notre système sanitaire. Je pense qu'on doit mettre encore un peu d'humain dans nos centres hospitaliers.
En visite au Togo à la fin du mois d'avril, la directrice région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé OMS a estimé que grâce à la contractualisation, le Togo peut augmenter le budget alloué au secteur de la santé. Docteur Matidizo Mouetsi.
Nous constatons dans beaucoup de pays, y compris ici au Togo, qu'il y a lieu d'augmenter l'allocation de budget public dans le système de santé. Je suis très satisfait que ici, le ministre a déjà constaté ça et il a pris action avec cette projet de contractualisation d'aller vers ça. Le pays est dans la bonne voie. Ce que nous pouvons faire comme l'OMS, c'est appuyer ce processus avec les hôpitaux.
Selon les résultats rendus publics par le ministère de la Santé, la disponibilité des médicaments dans les centres contractualisés est supérieure à 95%. En ce qui concerne les chiffres d'affaires, ils ont connu une augmentation entre 22 et 69% selon les centres de santé. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
En Centrafrique, une coopérative regroupant des femmes s'est créée sous le Dondara, un mot en langue nationale, Sango, signifiant le savoir. Les initiatrices veulent valoriser leur talent à travers l'artisanat. De Bangui, Pascal Serra nous amène à leur rencontre.
C'est dans ce garage modeste que se retrouve un groupe de femmes avec un objectif commun, confectionner des objets d'art uniques. La vente de ces produits faits avec des matériaux locaux permet de soutenir par la même occasion ces artisanes en leur permettant d'avoir des revenus stables, d'avoir accès à une formation professionnelle et d'acquérir le sens du développement des affaires, comme le précise Inès Somamako, assistante gérante de l'association Ndara.
Dans l'association Ndara, notre but dans cette association, c'est d'aider les filles à faire quelque chose, à produire quelque chose de leurs mains. On produit des tapis en paille, on fabrique les éléphants, c'est des jouets. On fabrique les pangolins, les sets de table, beaucoup des objets artisanaux. Donc on les fabrique en tissu paille. Vous avez vu comment les filles travaillent? Elles sont trop belles, bien habillées, bien sapées, vraiment propres. C'est à cause de ce travail. Elles sont vraiment valorisées par les produits de leurs mains. Il y a en tout cas beaucoup de choses qui ont changé dans notre pays. Ce que je peux dire aux jeunes filles, de se ressaisir, chercher à faire quelque chose de leurs mains, protéger leur famille, aider leur propre vie aussi.
Ce qui fait aussi la particularité de cette coopérative est surtout son aspect social. En effet, parmi les femmes présentes, une majorité exerce ses activités comme étant des mesures thérapeutiques suite aux événements tragiques que traverse la République centrafricaine. Ramatou Garga, membre de l'association, témoigne.
Il m'est arrivé quelque chose de terrible dans le village où j'habitais. Tous mes biens ont été pillés et détruits. Je n'avais plus rien, que ce soit de l'argent, des vêtements et même mon stock de sel pour faire mon commerce. Ils ont tout détruit. J'ai failli perdre connaissance. On tuait les gens sous mes yeux. Ce travail que je fais m'aide. Quand je viens travailler ici, cela me permet d'avoir un peu d'argent. Je loue une maison et je paie la scolarité de mes enfants et je les nourris.
En conclusion, les femmes sont formées à la fabrication des produits, mais aussi à la gestion des affaires, au marketing, et par la même occasion, elles sont soutenues dans le processus de la résilience. Au sein de cette coopérative, avoir d'une Dara, c'est non seulement être qualifié, mais c'est aussi reprendre goût à la vie.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président Donald Trump envoie 1500 militaires au Moyen-Orient pour décourager toute menace iranienne potentielle. Plus tôt cette semaine, des responsables de l'administration Trump ont déclaré aux législateurs que les États-Unis ne cherchaient pas à provoquer Téhéran. Nombreux sont ceux qui craignent que les messages contradictoires émanant de l'administration Trump n'augmentent le risque de conflit et réduisent les chances de persuader l'Iran de mettre fin à son programme d'armement nucléaire. Les explications de Patsy Widakusroy, correspondante de VOA à la Maison-Blanche, le récit est de Arzuma Compaoré.
Avant le Memorial Day, le président Donald Trump et la première dame Melania Trump ont visité lundi les tombes des soldats au cimetière national d'Arlington. Un jour plus tard, il annonçait qu'il enverrait plus de troupes pour faire face aux tensions grandissantes au Moyen-Orient. Donald Trump, président des États-Unis.
Nous allons envoyer un nombre relativement restreint de soldats, principalement pour assurer la protection. Et des personnes très talentueuses se rendent actuellement au Moyen-Orient. Et nous verrons comment et ce qui se passera. Nous enverrons environ 1500 personnes.
Des navires de guerre américains et des groupes de porte-avions ont déjà été déployés dans le golfe Persique. Plus tôt cette semaine, des responsables de l'administration ont déclaré que cette initiative avait permis de mettre les menaces iraniennes en veilleuse. Patrick Shanahan, secrétaire à la défense par intérim.
Nous sommes dans la région pour gérer beaucoup de choses, mais pas pour entrer en guerre avec l'Iran.
Bien que Téhéran aussi dise qu'ils ne veulent pas de la guerre, les analystes estiment que le risque de confrontation est élevé. Dalia Dasakai est directrice du Centre pour les politiques publiques du Moyen-Orient à la RAND Corporation.
Chaque partie tente d'adopter une posture de dissuasion, donc présence accrue de forces américaines dans la région pour envoyer un message aux Iraniens. Si vous nous attaquez, nous exercerons des représailles. Les Iraniens font la même chose.
Après avoir retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien en 2018, Trump a mené une campagne de pression maximale au moyen de lourdes sanctions pour empêcher l'Iran de produire des armes nucléaires et pour contenir son expansionnisme à travers le Moyen-Orient. Anthony Cordesman du CSIS.
Nous avons formulé 13 exigences complexes concernant les Iraniens, leurs relations avec tous leurs voisins ainsi qu'avec le monde entier.
Il est peu probable que l'Iran satisfasse à ses exigences. Le président Hassan Rouhani a rejeté l'idée de pourparlers, déclarant que l'Iran ne s'inclinera jamais. Ce qui se passera ensuite n'est pas clair. Trump parle durement de l'Iran, mais a fait campagne contre les guerres sans fin. Pendant ce temps, le conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, a plaidé pour une action militaire et même un changement de régime.
L'ambiguïté sur ce que l'administration souhaite réellement crée des problèmes et rend difficile l'obtention des résultats escomptés.
Certains analystes considèrent que le manque de clarté sur l'Iran est emblématique de l'approche globale de la politique étrangère de Trump, dans laquelle l'administration s'efforce d'atteindre un résultat, mais manque de crédibilité dans ses messages.
Cela va de la stratégie clairement énoncée au tweet. Mais on ne sait jamais, au jour le jour, à quoi s'attendre.
Le déploiement des troupes est un changement de stratégie pour Trump, lui qui a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de réduire la présence militaire américaine dans la région.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Lionel Lunanira Gahima. À la console, Odarius Rigus. À la présentation, Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.